a également été durement touché par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2016. Malgré une histoire lourde et compliquée, les Libériens présents à la célébration affirment que le plus important est de regarder vers l'avant.
Alors, merci beaucoup, Dili. À présent, nos invités pour le débat. À New York, nous avons Mohamed Boyd, professeur d'histoire à Manhattanville College. Et à Paris, Francis Patindé, journaliste et enseignant à Sciences Po. Et vous avez couvert le Libéria, vous avez également travaillé pour le HCR, donc au Libéria. Merci à tous. Alors je démarre avec vous, Mohamed Boyd. Historiquement parlant, l'idée d'un retour en Afrique d'esclaves affranchis est normalement grandiose. Hein. Pourquoi ce qui pouvait être vu comme un modèle de réimplantation réussi à accoucher d'un état marqué pendant longtemps par une instabilité tragique.
Il est certain que toute population déplacée de façon forcée a pour rêve, ambition ou en tout cas quelque part dans sa mémoire le désir de retourner. Donc qu'il y ait ce retour dans la mentalité, dans la mémoire des esclaves transporté aux Amériques est indéniable. Et donc le Libéria était une opportunité donc de faire ce pas, de retourner à la maison, disons. De l'autre côté, il y a, devant la montée du nombre de Noirs aux États-Unis d'une manière générale, et plus particulièrement de Noirs libres entre les années 1780 et les années 1820, et donc où les chiffres explosent en quelque sorte, certains Américains ont pensé que c'était l'émergence d'un problème noir, parce que ces Noirs affranchis ou libres ne correspondaient pas à ce que la société américaine avait prévu pour les Noirs, d'où l'idée de les ramener là où ils étaient venus, et donc de diminuer les risques de confrontation, de pression, etc., avec donc la majorité blanche.
C'était et troisièmement, de blanchir davantage l'Amérique.
Hein? Ah oui, tout à fait. Il y a un projet, l'Amérique aux Américains. Ça, c'est Monroe qui a commencé donc cette idée, sous sa présidence. Et après, Jackson a essayé de mettre ça en pratique à l'intérieur des États-Unis. Monroe, c'était plutôt une sorte de politique extérieure, de projection du pouvoir américain, en particulier sur les Amériques et sur les Caraïbes, alors que Jackson, c'est véritablement de se débarrasser de tout élément non-blanc, y inclut d'ailleurs les autochtones, les Native Americans, et de les mettre quelque part, puisque les Native Americans, on ne pouvait pas les mettre ailleurs qu'aux Amériques, où ils étaient les premiers habitants. Les Africains, eux, on pouvait les renvoyer en Afrique. Donc, d'une certaine façon, voilà ce qui faisait donc cette conjoncture. Et en plus, bien entendu, il y a des Blancs, il y a des Américains blancs qui pensaient que, en fait, une sorte de nativisme, que les Africains naturellement appartenaient à l'Afrique et seraient plus heureux. Le mythe du sauvage heureux à la Rousseau. Et donc, il fallait tout faire pour écarter l'histoire et les renvoyer chez eux.
Merci pour cette perspective historique. Alors, Francis Patindé, quand Samuel Doe est venu au pouvoir de façon brutale, avec une sorte de revanche un peu sur l'élite en 1980, est-ce qu'il était quand même prévisible que le pays, de voir le pays s'enfoncer davantage dans la division et plus tard dans des guerres civiles considérées comme étant parmi les plus sanglantes de l'époque?
Oui, parce que les fondateurs donc du Libéria tel qu'on le connaît aujourd'hui, ils venaient d'ailleurs, même s'ils étaient noirs, donc ils venaient d'ailleurs avec aussi une culture, c'était des descendants d'esclaves, donc c'est avec une culture donc qu'ils ont acquise là-bas. Donc ils avaient le même comportement que certains Africains vis-à-vis des populations de l'intérieur. C'était les gens évolués, comme on disait, vous voyez. Et vous savez ce qu'ils ont fait après, parce que l'indépendance du Libéria, vous l'avez bien rappelé, est intervenue 25 ans après, donc en 1847. Et ils ont tout de suite instauré un suffrage censitaire. Ça veut dire seuls les aristocrates, seuls les lettrés seuls les gens évolués pouvaient voter. Donc la population dite autochtone a été écartée du suffrage universel. Donc tout ça, ça a duré quand même un bon moment, donc jusqu'à ce que Samuel Doe, donc un native, sergent, et prenne le pouvoir en avril 1980. Et avant lui, il y a quand même eu déjà une trentaine de présidents libériens, tous appartenant à l'élite qu'on appelle les Congos. Là-bas, on les appelle les Congos, les Noirs américains, les Noirs libériens, américains libériens. Donc, les Congos ont dirigé le pouvoir jusqu'en avril 1980. Donc, on pouvait considérer, en tout cas, aux premières heures du coup d'État et les jours qui ont suivi, on a pensé que c'était une catharsis, une forme de libération des populations, une revanche des populations autochtones contre les Afro, les Américains libériens. Donc, arrivé au pouvoir, on a passé beaucoup d'espoir en lui, en une forme d'égalité, une forme d'évolution des populations locales, mais très, 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 très vite, son régime a tourné à l'horreur, à la terreur.
D'accord. Alors, Mohamed Mboj, qui était un peu ces premiers Africains-Américains qui sont arrivés au Libéria, pour parler un peu de leur profil, étaient-ils bien instruits? On parle à l'origine d'une trentaine de familles seulement, mais suivies plus tard d'une vague d'immigration en provenance des États-Unis.
Oui, donc la plupart étaient déjà entre guillemets des affranchis, ou en tout cas des Noirs libres, et souvent donc de la région de Philadelphie, qui était à l'époque aussi là où il y avait la majorité des Noirs libres dans ce pays, et le plus grand port des États-Unis, la plus grande ville des États-Unis à l'époque. Et donc c'était effectivement des gens qui avaient des métiers, des charpentiers, étaient éduqués, et surtout qui étaient très imbibés d'une certaine vision messianique de ce qu'ils étaient. Donc l'Amérique à ce moment-là était dans ce qu'on appelait le revivalism, c'est-à-dire une redécouverte de la religion, du christianisme, et les Noirs n'y échappaient pas. Donc en tout, tous les Noirs qui vont s'établir donc en Afrique, au compte-goutte d'abord, et puis ensuite le nombre va s'affranchir, et en particulier autour de la guerre civile. C'était donc pour certains, pas pour tous, mais pour beaucoup des gens déjà instruits. Il y avait pas mal de ferveur chrétienne. Il y a...
Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu le professeur Mboj. Alors, Francis, est-ce que aujourd'hui, George Weah, a vu son statut de footballeur ayant donné un peu au Libéria ses lettres de noblesse en sport, peut aider à faire tourner la page au Libéria, quand on sait que les anciens protagonistes sont toujours là, Prince Johnson et même sénateur, Charles Taylor, c'est vrai, est en prison, mais toujours influent, on le dit toujours influent.
Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que avant George Weah, il y a quand même Madame Hélène Johnson-Sirleaf, qui est une grande dame, première femme africaine élue chef d'État du continent africain. Donc, une dame qui a des qualités remarquables, qui a été honorée par un prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est quand même, ça compte beaucoup. Elle a fait deux mandats de 6 ans à la tête du Libéria. Elle a essayé de faire tant bien que mal ce qu'elle pouvait. Moi, j'étais là-bas, je travaillais donc pour le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Libéria. Donc j'ai sillonné ce pays du Harpa jusqu'à Monrovia, en passant par Gbanga, Saklepia, vous voyez. Donc c'est une dame qui a construit beaucoup de routes. Il a construit des universités hors de Monrovia et qui a donc il a quand même mis la machine en route. Elle a passé le relais à un footballeur connu, donc qui a été ballon d'or en Europe et tout. Donc George Weah n'était pas préparé pour la fonction. Maintenant, il a appris, il apprend pendant les 6 prochaines années. Il est là pour 6 ans et il va essayer d'apporter son savoir-faire. Vous savez qui est sa vice-présidente, parce qu'au Libéria, c'est par un ticket aussi, comme vous dites. C'est Joël. C'est l'ex-épouse de Charles Taylor. Voilà, c'est ça. Donc, il essaye de conduire la barque tant bien que mal, mais le pays vient de loin. On l'a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu 250 000 morts. Il y a eu 1 million de réfugiés dans les pays voisins, en Guinée, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire. Tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'était que des réfugiés libériens. Il y en a eu au Ghana aussi. Donc c'est un pays qui vient de loin. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup, quelques décennies, avant que le Libéria ne retrouve peut-être sa splendeur d'antan. Parce que c'était un pays, avant la guerre, jusqu'au pouvoir des Tubman et tout, c'était un pays dont l'économie était florissante. C'était un pays phare en Afrique de l'Ouest.
Surtout grâce au caoutchouc.
Voilà, c'est ça. Donc depuis la guerre civile, ils sont retombés totalement en enfer.
Mohamed Mboye, le Libéria demeure quand même l'un des pays les plus pauvres du continent aujourd'hui. Lors de la commémoration du bicentenaire, le président Weah a appelé à plus d'investissements américains, notamment de la part des Africains américains. Est-ce que c'est une manière pour lui de rappeler aux États-Unis leur responsabilité historique à aider le Libéria aujourd'hui?
Les Libériens, surtout les libéraux américains, donc les anciens Congo, ont gardé des liens sentimentaux et même familiaux. La plupart de ces gens ont encore de la famille ici et les ont gardé ces relations intactes. Donc il est naturel et normal qu'effectivement ils se tournent un tout petit peu vers donc la patrie dont ils sont originaires et avec laquelle ils ont gardé des contacts. Deuxièmement, il y a un débat aux États-Unis sur les reparations, donc pour réparer le fait de l'esclavage, et le Libéria est en première ligne pour réclamer sa part, en particulier en étant donc un pays qui a accueilli beaucoup d'anciens esclaves, et donc s'il y a réparation qui est due aux anciens esclaves, le Libéria est en première position pour réclamer, donc moralement et pécuniairement, donc ces dédommagements. Et troisièmement, maintenant, il y a une sorte de vision panafricaniste qui ne s'est jamais démentie, même quelquefois si elle n'est pas très efficace, et qui fait que, en grande partie, en particulier en Afrique de l'Ouest, on regarde de l'autre côté de l'Atlantique et les relations avec les Afro-Américains et aussi placer dans ce cadre-là, en quelque sorte, essayer de faire en sorte que, par exemple, si les Juifs américains investissent en Israël, pourquoi les Noirs américains n'investissent pas en Afrique. Donc il y a pas mal de parallèles d'accord. De ce genre.
D'accord. Voilà. Alors, avant d'aller rapidement en pause, Francis, le Libéria, quelle histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir de son histoire et tragique et également positive, rapidement avant d'aller en pause?
Moi, je trouve que d'abord, c'est un beau pays, hein, c'est un très beau pays. Ils ont essayé de reproduire l'Amérique là-bas. Parce que vous avez des quartiers qui s'appellent Connecticut, vous avez Virginia, vous avez. Vous voyez, donc c'est comme ça là-bas. Voilà, c'est ça. Vous avez la franc-maçonnerie, par exemple, américaine, qui est bien implantée, enfin, qui était implantée jusqu'au coup d'État de Samuel Doe. Donc, il y a. Et les regards là-bas sont tournés vers les États-Unis d'Amérique. Vous savez que pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, on avait un programme de réinstallation, donc, des réfugiés dans des pays étrangers, et que lorsqu'ils avaient le choix, il n'y avait qu'un seul pays qui les intéressait, c'était les États-Unis d'Amérique. Ils ne voulaient pas aller ailleurs. Donc il y a un regard du Libérien qui est tourné vers les États-Unis d'Amérique et qui est vraiment plus marquant, plus prégnant que dans les autres pays africains.
D'accord. Alors voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore Ndiamena nous dit « Le Libéria est une terre libre et la liberté est toujours issue d'un passé douloureux. Les relations entre l'Afrique et la diaspora sont axées sur la fraternité et la volonté de changer l'image du continent. » Et puis Abdourahmane Camara à Conakry écrit « Le retour en Afrique est primordial pour la diaspora et pour l'Afrique ensemble pour l'édification de notre continent. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. la seconde partie de Washington Forum. Comme chaque année depuis 1976, on célèbre aux États-Unis le mois de l'histoire des Noirs au mois de février. Ce mois est aussi l'occasion pour des touristes afro-américains attirés par le tourisme mémoriel de partir à la découverte de leur continent d'origine. À Dakar, Alison Fernandez et Mbaindir ont suivi deux de ces touristes et voici leur reportage.
Fraîchement débarqués de l'Ohio aux États-Unis, Maya et Camille passent leur première journée à Dakar. Et c'est au monument de la Renaissance, dans le quartier de Wakam, que les conduit leur guide.
It symbolized the rebirth of Africa. It was built in 2010.
Maya planifie ce voyage depuis presque 3 ans. Ce sont ses tout premiers pas sur le continent.
In America, you get a lot of messaging about what Africa is like.
En Amérique, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Afrique. Ce ne sont pas des images très positives sur la vie de tous les jours, les coutumes ou la culture. Donc je voulais expérimenter, me faire mon propre avis.
I wanted to experience that first.
Comme la majorité des touristes afro-américains désireux de découvrir l'Afrique, Maya et Camille sont passés par une agence de voyage, celle de Djibril Sall, un enfant du pays qui a passé plus de 15 ans aux États-Unis et qui est revenu l'année dernière pour monter son agence.
La plupart de mes clients viennent pour la première fois en Afrique. Le Sénégal est donc le premier pays africain qu'ils découvrent. Ils viennent avec l'idée de créer une connexion avec l'Afrique, donc c'est leur porte d'entrée. En tant qu'afro-descendants, ils veulent se connecter avec leurs racines et je leur dis que c'est ici et qu'ils peuvent trouver cela et avoir une relation sincère et authentique.
Cinq jours plus tard, nous retrouvons Maya et Camille, dont le voyage touche à sa fin. Pour leur dernier jour, Djibril leur fait découvrir son quartier d'enfance, à côté de la mosquée de la Divinité. Pour les deux Américaines, le point d'orgue de leur séjour a été la visite sur l'île de Gorée, au lieu mémoriel et touristique, symbole de l'exploitation humaine pendant la traite négrière.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est notre visite sur l'île de Gorée. Je suis toujours en train de réaliser l'histoire qui s'est passée, la tragédie qui a eu lieu là-bas. C'était intéressant et beau à voir, et en même temps douloureux d'avoir un aperçu de ce que nos ancêtres ont traversé.
A real life example or reminder of what our ancestors have gone through.
Avec l'île de Gorée, mais aussi Saint-Louis, les deux inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978 et 2000, le Sénégal a su valoriser son patrimoine historique et culturel pour se placer à l'avant-garde du tourisme de mémoire en Afrique de l'Ouest. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À New York, Mohamed Boyd, professeur d'histoire à Manhattanville College. Et à Paris, Francis Patindé, journaliste enseignant à Sciences Po, qui a également beaucoup travaillé sur le Libéria. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, professeur Boyd. Ce mouvement du retour en Afrique a pris une autre forme ces dernières années, ces dernières décennies même. Pourquoi a-t-il pris autant d'ampleur ces dernières années, avec par exemple le Ghana qui propose des passeports aux citoyens américains?
Il y a certainement les efforts des pays africains eux-mêmes pour attirer cette clientèle. Le Ghana est très en avance, mais même le Sénégal, il y a des encarts publicitaires dans beaucoup de programmes culturels sur des chaînes culturelles américaines où la destination Sénégal est vendue et les gens ne s'en rendent pas compte souvent par de l'extérieur. Et d'une manière générale, avec la présidence d'Obama, la montée de ce qu'on peut appeler une nouvelle conscience noire, qui n'est plus fondé simplement sur l'idée d'être un citoyen américain, mais d'être un citoyen du monde, et l'établissement, disons, ou ce qu'on peut même appeler la prospérité d'une classe moyenne américaine qui a des revenus et donc ils peuvent disposer. Tout cela donc se conjugue pour effectivement créer une sorte de mouvement ou en tout cas d'intérêt qui tarde évidemment à se transformer en mouvement de masse, mais c'est un moment opportun. En tout cas, c'est un moment opportun pour beaucoup de redécouvrir l'Afrique, de redécouvrir leurs racines. C'est une période où donc les facilités de transport, mais en même temps aussi de découvrir par l'intermédiaire des nouvelles technologies, Internet, Facebook, etc., créent, disons, cet appétit pour aller voir physiquement plutôt que de voir simplement à travers un écran.
Et Francis Patindé, ce retour aux sources, est-ce qu'il n'est pas plutôt touristique ou bien il y a des initiatives pour une meilleure connexion entre l'Afrique et sa diaspora?
Moi, j'ai travaillé 4 ans au Ghana. Et au Ghana, et le professeur Mbodge le mentionnait tout à l'heure, c'est vrai, c'est un pays phare où il y a beaucoup de retours. Et pas seulement Stevie Wonder et tout, parce que Stevie Wonder a une maison au Ghana, donc il séjourne là-bas. Mais il y a beaucoup de Noirs américains qui sont rentrés, qui travaillent, j'en ai rencontré également en Afrique du Sud. Ils sont profs dans les universités, donc il y a quelques pays, donc il y a le Sénégal, il y a le Ghana, mais vous avez également des cas en Éthiopie ou en Afrique du Sud ou au Kenya ou depuis le passage d'Obama à la Maison Blanche, donc ça joue beaucoup. Il y a aussi un autre phénomène qu'il faut mentionner, c'est les tests ADN qui se sont beaucoup développés et qui ont conduit des gens qui ont voulu, même Spike Lee qui a retrouvé récemment le Cameroun parce que il a fait un test ADN, donc ses ancêtres étaient du Cameroun actuel. Donc il y a ça, ce n'est pas seulement une mode, ce n'est pas seulement du tourisme, et de toute façon, même s'il y avait du tourisme, le tourisme précède une installation éventuelle au pays.
Et il y a l'Union africaine qui parle de 6e région en référence à la diaspora aussi.
Absolument, c'est le président Wade d'ailleurs du Sénégal qui avait fait voter cette résolution à l'Union africaine, et donc il y a une 6e région, c'est la diaspora, et la diaspora elle n'est pas qu'américaine, elle est en Europe également, elle est en Asie aujourd'hui,
aux Antilles plutôt. Aux
Antilles, ouais, dans les Caraïbes et tout ça, voilà.
Mohamed Boyd, peut-être rapidement, est-ce qu'il faudrait, vous le mentionnez un peu plus tôt, peut-être s'inspirer d'Israël carrément sur cette question de la diaspora?
Il y a très certainement une piste à suivre, donc une filiation, un retour aux sources, sans pour autant d'ailleurs abandonner donc le fait d'être américain. Mm-hmm. Et donc, si les expériences malheureuses, disons, qui se sont terminées un tout petit peu dans la guerre civile au Libéria, nous donnent des leçons à apprendre. Maintenant, et comme l'a dit donc
Francis,
le journaliste Francis, j'apprécie beaucoup. Et il y a certainement une base de départ. Et ce n'est pas seulement le tourisme. Venez sur les plages, mangez des plats.
Nous arrivons au terme de ce Washington Forum, un débat certainement à suivre. Hein. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Et un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt.